naturellement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Vous voici, comme chaque jour de cet été, conviés dans le grand amphithéâtre du Collège de France auquel s'associe France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale, ce rite d'ouverture sur une série de cours à venir où le nouvel entrant, le professeur, présente à la fois devant ses pairs et un public large et divers l'état des lieux de ses recherches. Cet état des connaissances est aussi le reflet des mutations de notre monde. Aujourd'hui, nous explorons l'interface de la chimie et de la biologie en compagnie du multiculturel Marc Fontecave, spécialiste des systèmes enzymatiques complexes, fervent promoteur de l'approche bio-inspirée, notamment pour la photosynthèse artificielle appliquée pour la recherche d'énergie renouvelable. Ce grand biochimiste rappelait dans une interview de 2015 que la puissance de la chimie augmente sans cesse. La biologie synthétique connaît des progrès considérables grâce à la connaissance de la chimie du vivant. Nous avons désormais la capacité d'utiliser l'usine cellulaire pour produire des choses utiles. Science de la création des molécules et des matériaux dont dépend tout le reste, la chimie nous rappelle-t-il à, selon le mot de Marcelin Berthelot en 1860, une faculté créatrice semblable à l'art lui-même. Dans une interview de 2009, année de son entrée au Collège de France, Marc Fontecave résume « La nature s'est débrouillée pour produire de l'énergie sans platine. Nous nous en sommes inspirés. Les cyanobactéries peuvent transformer l'eau en hydrogène grâce à l'énergie du soleil. Elles possèdent des enzymes qui réalisent des catalyses en faisant appel à des atomes de nickel et de fer. » Du coup, Marc Fontecave peut nous livrer quelques aphorismes que sa leçon va magistralement éclairer. Il n'y a pas de vie sans métaux. Et le biochimiste de souligner, l'une des grandes révélations de l'analyse du monde vivant de ces 40 dernières années est l'importance du rôle qui jouent les ions métalliques. Longtemps vu comme essentiellement organique et donc bio-organique, la chimie du vivant révèle une face métallique aux reflets multiples et devient par conséquent bio-inorganique également. Marc Fontecave explore le cycle chimique vertueux et écologique qui unit l'homme à la nature et au soleil. Et à la question « À quoi tient la vie ?» À un hydrogène de plus ou de moins ? Scientifique et citoyen du monde, engagé pour un développement durable et responsable, il prône de développer une écotoxicologie. Chimiste et biologiste, Marc Fontecave a dirigé à Grenoble le laboratoire de chimie et biologie des métaux qu'il a fondé. Dans cette même ville, il a été professeur à l'université Joseph Fourier entre 1989 et 2008, après un passage à l'Institut Karolinska à Stockholm. Membre de l'Académie des sciences, il est aussi vice-président de l'Association franco-suédoise pour la recherche et président de la Fondation du Collège de France depuis 2015. Depuis 2009, il est professeur dans cette institution pluridisciplinaire, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques, et c'est dans ce cadre qu'il prononce sa leçon inaugurale intitulée justement « Chimie des processus biologiques, une introduction » le 29 février 2009 au Collège de France.
Le grand biologiste français François Jacob raconte dans son ouvrage « La souris, la mouche et l'homme » qu'un jour en Conseil des ministres, le général Roth de Gaulle avait répondu vertement à un membre du gouvernement « Il y a trois choses en France auxquelles il ne faut pas toucher, le Collège de France, l'Institut Pasteur et la Tour Eiffel. » Je suis particulièrement heureux, comme vous l'êtes sans doute, au moins pour le Collège de France, que les recommandations du général aient été respectées, et c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je voudrais vous remercier, monsieur l'administrateur, et mesdames et messieurs les professeurs, de m'accueillir parmi vous dans cette prestigieuse institution comme titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques. Au-delà de ces sentiments personnels, je voudrais dire à quel point je ressens ma présence ici comme une marque importante de reconnaissance de cette grande discipline, la chimie, trop souvent et trop injustement décriée par l'opinion et les médias, et systématiquement placée, en particulier dans notre pays, derrière ses grandes sœurs, la biologie et la physique. Je voudrais donc rappeler ici que si dans la science du XXe siècle et du siècle qui débute, les disciplines sont devenues essentiellement interdépendantes, la chimie est probablement celle qui a le plus souvent et le plus profondément multiplié ses incursions chez les autres, sciences de la vie et de la santé, physique et matériaux, sciences pour l'ingénieur, sciences de la terre et de l'environnement qui toutes la sollicitent en permanence. Solliciter la chimie l'est parce qu'elle est avant tout la science de la création des molécules et des matériaux dont dépend tout le reste. Comme le dit Marcellin Berthelot en 1860, cette faculté créatrice, semblable à l'art lui-même, la distingue essentiellement des sciences naturelles et historiques. C'est donc elle qui façonne le monde concret dans lequel nous vivons, médicaments, cosmétiques, polymères, plastiques, verres, pour ne citer que quelques objets chimiques de notre univers. Notre futur prendra forme autour des molécules et des matériaux inventés dans les laboratoires de chimie, et ces mondes possibles sont infiniment nombreux, tant le potentiel de transformation chimique de la matière et des sociétés est grand, au fond comme l'art, c'est ce que dit Berthelot, et tant les questions fondamentales que la chimie, science positive par excellence, sont marquées par leur utilité pratique potentielle. La chimie, c'est donc aussi une industrie qui, en France, second secteur après l'automobile, représente une centaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires pour plus d'un millier d'entreprises et 250 000 salariés, ce qui nous situe au second rang en Europe et au cinquième dans le monde. La chimie a d'autre part ceci d'unique, qu'elle s'est donné un langage universel et fraternel, pratiqué et compris à travers la planète, qui permet une lecture lumineuse de la matière dont nous sommes faits, de celle qui nous entoure, de celle enfin qui est possible. Ce langage s'appuie sur un alphabet original, celui de la merveilleuse classification périodique proposée en 1869 par le chimiste russe Mendeleïev. Ce langage s'appuie aussi sur des noms et des représentations d'une incroyable beauté et nous dit, combinant rigueur scientifique et rêve esthétique, ce que nous sommes et vers où nous pouvons aller. Il unifie les sciences biologiques et les lie aux sciences physiques. Et si le vivant peut être compris en termes rationnels, c'est en grande partie, on l'oublie trop souvent, parce qu'il est exprimé dans le langage de la chimie. Que cet ensemble très simple de signes représente pour l'homme, qu'il soit de Madras, Shanghai ou New York, une même réalité concrète, à savoir ici l'urée. N'est-il pas admirable ? Comment ne pas s'émerveiller devant la forme de cette protéine, la petite sous-unité de la ribonucléotide réductase, ce cœur moléculaire absolument essentiel à la vie, parce que responsable dans toute cellule vivante de la transformation des ribonucléotides en désoxyribonucléotides, les précurseurs de l'ADN, ces quatre perles de couleurs différentes qui se combinent pour donner une chaîne d'ADN et dont la séquence des couleurs constitue le message génétique. Ne sont-ils pas romantiques, ces deux brins d'ADN, une fois formés, qui s'enlacent en double hélice dans ce baiser moléculaire qui ne cesse de donner naissance à la vie, symbolique, cette représentation chimique, mais en même temps si profondément significative dans ce qu'elle nous dit des mécanismes moléculaires de la réplication du patrimoine génétique. Ne sont-ils pas douze à entendre ces noms de molécules naturelles, rébécamycine, chlorophylle, adénosylcobalamine, et ne sont-ils pas si joliment adaptés à ces structures chimiques ? Et cette molécule, toute simple, dont un article récemment paru dans la revue Nature a révélé l'importance dans le développement du cancer de la prostate. Qui sait ici comment elle s'appelle ? Je voudrais bien excuser le ton légèrement professoral. La sarkozine. N'est-ce pas admirablement impertinent ? Les chimistes se sont intéressés depuis toujours à la nature moléculaire de la vie. Car finalement, qu'est-ce qu'une cellule vivante, sinon une goutte minuscule, constituée et remplie de milliers de molécules, de tailles et de formes variées, échangeant énergie et matière avec l'extérieur ? Goutte minuscule, certes, mais devenue visible, observable et concrète, comme le devient d'ailleurs aussi son contenu moléculaire, grâce aux techniques les plus modernes de la microscopie, par exemple. Qu'est-ce que la vie, sinon cette matière informée que produit la communication entre ces molécules, à travers des interactions subtiles, au sein de réseaux certes complexes, mais néanmoins aisément décrits par les lois de la physique et de la chimie. Qu'est-ce que la vie, enfin, sinon cette matière transformée par une dynamique fortement interconnectée de milliers de réactions chimiques, certes d'une efficacité cinétique et avec des rendements encore inaccessibles au laboratoire, mais tout de même des réactions chimiques. C'est bien parce que la chimie est à la fois une science de la matière informée et une science de la matière transformée que les chimistes ont toute légitimité pour participer à ce grand projet de l'homme, comprendre le monde vivant. Ce que leurs recherches ont fondamentalement révélé, c'est la formidable unité chimique du vivant. On retrouve en effet les mêmes molécules essentielles en nombre relativement limité chez tous les êtres bactéries, mammifères ou plantes. Et la diversité du vivant, vous le savez, ne résulte pas tant d'une diversité chimique que d'une combinatoire complexe dans l'utilisation de cette collection finie de molécules. C'est justement cette finitude qui permet à la chimie de jouer un rôle majeur dans l'exploration du vivant à travers le prisme certes réduit, mais pertinent de son contenu moléculaire et en utilisant langage et représentation de la chimie, comprendre la vie devient dès lors un objectif accessible. Cette capacité du vivant à utiliser un petit nombre de briques chimiques pour construire de façon extraordinairement économique un palais. La permanence des solutions chimiques à travers le temps et les organismes, je voudrais l'illustrer justement avec l'exemple de la ribonucléotide réductase anaérobie, une enzyme que j'ai découverte avec Peter Reichard au département de biochimie de l'Institut Karolinska à Stockholm, où je vécus en famille au cours des années 80, puis par période au début des années 90. Cette enzyme fascinante a été étudiée ensuite à Grenoble pendant de nombreuses années. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier deux de mes plus importants collaborateurs dans cette aventure unique, Étienne Muliez, directeur de recherche au CNRS, et Sandrine Olanier de Choudens, qui, au cours d'une thèse exceptionnelle, contribua à dévoiler de nombreux secrets de ce système d'une rare complexité et avec qui j'ai partagé de nombreux projets ensuite et encore aujourd'hui. Il me faut, pour rendre cette histoire audible par vous, rappeler cette réalité biologique profonde, plutôt mal connue, à savoir que la biosynthèse de l'ADN, dans nos propres cellules, ne peut se produire sans l'oxygène que nous respirons. Ce lien synthèse d'ADN oxygène s'explique en particulier par le fait que la réaction de synthèse des précurseurs d'ADN, les désoxyribonucléotides, que j'ai déjà évoqués, implique une oxydation très spécifique, qu'il n'est pas utile ici de détailler, de la ribonucléotide réductase par l'oxygène de l'air, comme l'avait montré Peter Reichard dans les années 70. En 1987-1988, Peter et moi-même commençâmes à nous interroger sur la question, à cette époque originale et inexplorée, de la synthèse des mêmes désoxyribonucléotides, mais cette fois chez les micro-organismes anaérobies, c'est-à-dire qui prolifèrent en absence totale d'oxygène. Ceci me conduisit à découvrir et isoler une nouvelle ribonucléotide réductase au début des années 90, et en 2009, 20 ans après, il reste encore beaucoup à faire pour étudier le fonctionnement chimique complexe de cette enzyme et qui fonctionne sans oxygène par transfert de radicaux bien contrôlés, très réactifs, extraordinairement bien contrôlés. En particulier, il se passe cette chose incroyable que nous essayons de comprendre depuis des années. Cette enzyme qui comporte des centaines d'acides aminés et des milliers d'atomes d'hydrogène n'est fonctionnelle, donc la synthèse d'ADN effective, que si l'un de ces acides aminés, une glycine, sur cette boucle et pas ailleurs, a perdu un atome d'hydrogène par un mécanisme radicalaire sélectif. Ceci illustre la fantastique puissance de la chimie, un événement a priori mineur, un battement d'ailes de papillon, l'arrachage d'un atome d'hydrogène sur la protéine, est à l'origine d'un tsunami biologique, un processus essentiel, la synthèse des précurseurs d'ADN. À quoi tient la vie ? À un atome d'hydrogène de plus ou de moins. Plus important encore, c'est que la chimie que nous avons découverte il y a 20 ans est en fait d'une très grande universalité. C'est ce que nous révèlent aujourd'hui les génomes. Jean Weissenbach, dernière médaille d'or du CNRS, me disait récemment que près de 5000 gènes trouvés chez tous les organismes vivants, et pas seulement chez les anaérobes, présentent les caractéristiques chimiques de notre ribonucléotide réductase, et l'on voit en effet, petit à petit, se confirmer que des centaines de voies métaboliques, des réactions de biosynthèse de cofacteurs essentiels, de vitamines, d'antibiotiques, des réactions de modification d'ARN de transfert et de réparation de l'ADN utilisent le même mécanisme radicalaire. Cette découverte a donc mis à ciel ouvert une mine sans fond de réactions et d'enzymes incroyablement intéressantes sur le plan chimique et sur le plan des applications potentielles et nous place idéalement pour les étudier, ce que nous faisons actuellement. Cela illustre la pertinence de l'approche moléculaire que je défendais à l'instant. La découverte et la compréhension d'une nouvelle réaction chimique du vivant peut permettre, d'un seul coup, d'en comprendre des centaines. François Jacob l'avait également superbement évoqué dans son ouvrage « La logique du vivant ». C'est une logique de type économique qui consiste, lorsqu'une solution chimique bien contrôlée a été trouvée, pour une application donnée, à l'exploiter au maximum dans toutes les applications possibles avant, beaucoup plus difficile, d'en inventer une nouvelle. Au fond, la chimie, c'est ce que nous avons de commun avec tous les êtres de l'univers, c'est ce qui nous rassemble, même gènes, même composants chimiques. C'est elle qui nous empêche de voir dans notre voisin, blanc, jaune ou noir, autre chose que nous-mêmes. Elle nous rattache à la Terre, d'où nous venons tous, puisque nous ne sommes que le produit chimique des transformations que subissent les aliments que nous fournit cette Terre, et où nous finissons, lui redonnant pour un autre cycle de vie tout le carbone et autres éléments chimiques dont nous sommes faits. Dans ce retour, il n'y a plus ni vivant, ni complexité, ni diversité. Il y a nos molécules, froides et éternelles, révélant enfin de façon si évidente notre profonde identité chimique, cette âme des choses visibles, immuables, éternelles. La chimie, c'est enfin ce qui nous relie à nos ancêtres, les premiers êtres vivants apparus il y a 3,5 milliards d'années. Si la vie a pu exister, c'est qu'elle a découvert des solutions chimiques pour démarrer la flamme et la maintenir. Et beaucoup de ces mécanismes primitifs, certes améliorés peu à peu, ont été, je l'ai évoqué, étonnamment conservés avec le temps. C'est donc la chimie qui nous autorise à nous poser la question fondamentale: comment tout a commencé? Enfin, c'est l'unité moléculaire du vivant depuis les origines qui nous autorise à nous penser éternels, à voir pour l'homme une destinée chimique et éternelle. L'histoire des relations entre chimistes et vivants, que je voudrais rapidement brosser maintenant, est au fond celle du débat, parfois violent et disons pour simplifier, entre vitalistes et réductionnistes. Le vitalisme, c'est la croyance de l'existence au sein des organismes vivants d'une force vitale différente, supérieure aux forces physiques et seule capable d'expliquer l'ordre du vivant. Une force donc qui s'oppose à la mort. Comme le dit par exemple le physiologiste français Marie-François-Xavier Bichat à la fin du XVIIIe siècle, la science des corps organisés doit être traitée d'une manière toute différente de celle qui ont les corps inorganiques pour objet. La physique, la chimie se touchent parce que les mêmes lois président à leurs phénomènes. mais un immense intervalle les sépare de la science des corps organiques, parce qu'une énorme différence existe entre ces lois et celles de la vie. C'est cette force vitale qui permettra, sans effort, d'expliquer pendant plus d'un siècle la formation à partir de substances alimentaires et la transformation de composés chimiques complexes chez les organismes vivants. Il existe de nos jours des formes plus ou moins subtiles, politiques ou inconscientes, de vitalisme renaissant. C'est pour une part importante le retour en force d'intégrisme religieux anti-scientifique un peu partout dans le monde, y compris dans les pays les plus développés, comme les États-Unis, mais aussi en Europe. Ce vitalisme, je le vois aussi dans ce que l'écologie militante a de plus extrême et qui conduit à faire croire aux citoyens que la vérité est dans la nature seule et le danger, par essence, dans l'homme qui invente. Enfin, il existe aussi dans nos rangs, lorsque l'enthousiasme que soulèvent les approches dites post-génomiques de la biologie se traduit par une foi nouvelle dans les modèles qu'elles produisent à partir d'une masse gigantesque de données, parce que ces modèles sont mathématiques, donc irréfutables. Cette biologie dite des systèmes à laquelle nul ne saurait échapper aujourd'hui. Parmi les réductionnistes qui refusent au contraire de voir dans le vivant autre chose que l'expression des lois de la physique et de la chimie, se côtoient dès le XIXe siècle Justus von Liebig, Marcelin Berthelot, et plus récemment par exemple le grand chimiste américain George Whitesides, médaille Priestley 2007, pour qui j'ai le plus grand respect, et qui écrit tout simplement « The nature of the cell is an entirely molecular problem ». Je crois moi-même depuis longtemps, vous l'aurez compris, à cette idée profondément moléculaire du monde vivant qui justifie qu'on puisse consacrer son existence à l'exploration de cette chimie biologique complexe et mystérieuse. Ne nous cachons pas que cette approche est d'une exigence intellectuelle et pratique redoutable, car elle demande aux chimistes d'être multiculturels. Malheureusement, aujourd'hui en France, en raison d'une vision de plus en plus utilitariste de la science par les politiques, d'un certain archaïsme de nos enseignements universitaires, d'une certaine rigidité des structures de nos organismes de recherche, enfin du conservatisme de nos entreprises, malgré les discours, on n'a jamais autant parlé de la fameuse interface chimie-biologie. Le fossé qui sépare la chimie et la biologie est, de mon point de vue, loin de se combler. Et pourtant, quel bonheur, j'en suis témoin, pour un chimiste, que ce questionnement sur le vivant et ce que cela implique de mondes à découvrir, il ne s'agit plus d'être double ou triple, mais multiple et par là universel, car comme le dit le philosophe Michel Serres dans sa magnifique contribution sur les questions de l'éducation, le tiers instruit, le corps qui traverse apprend certes un second monde, celui vers lequel il se dirige, où l'on parle une autre langue, mais il s'initie surtout à un troisième par où il transite. C'est ce monde à l'interface, à la frontière contrariante et hostile des disciplines qu'il nous faut investir pour comprendre le vivant, puisque, comme le dit Michel Serres à nouveau, aucun apprentissage n'évite le voyage.
Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Marc Fontecave intitulée « Chimie des processus biologiques, une introduction » le 29 février 2009 au Collège de France.
Du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe, l'activité des chimistes se limite à l'analyse et à la caractérisation des différents constituants moléculaires du vivant. On qualifie ces composés carbonés, provenant d'organismes, animaux ou végétaux, de substances organiques en les distinguant clairement des substances chimiques inorganiques, c'est-à-dire ne contenant pas de carbone, et l'on tient pour impossible à l'époque de les synthétiser au laboratoire, la force vitale permettant seule d'expliquer leur biosynthèse et leur transformation. Il reviendra à un chimiste allemand du nom de Frédéric Wöhler en 1828 de remettre en question ce concept. Pour obtenir de l'isocyanate d'ammonium, il chauffa un mélange d'isocyanate d'argent et de chlorure d'ammonium et découvrit que le produit était l'urée, connu depuis 1773 comme un résidu organique des mammifères excrété dans l'urine. Frédéric Wöhler alors écrivit à son maître Berzelius « Je dois vous informer que je suis en mesure d'obtenir de l'urée sans recourir à un rein animal ou humain. En 1837, Justus von Liebig, un chimiste allemand qui a produit des contributions majeures en chimie biologique, écrit « L'extraordinaire et inexplicable production d'urée sans l'assistance de fonctions vitales que nous devons à Wöhler doit être considérée comme l'une des découvertes avec lesquelles une nouvelle ère de la science commence. » C'est le véritable début de la chimie biologique, car ce résultat incita à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle de nombreux chercheurs à tenter la synthèse de molécules du vivant et à considérer une unité du monde organique et inorganique, du monde vivant et de celui des choses. On peut dire que c'est Marcelin Berthelot qui, le premier, conceptualise cette unité, d'une part en réussissant, grâce à une habileté expérimentale exceptionnelle, la production au laboratoire de toute une série de composés organiques à partir de précurseurs inorganiques, carbone, hydrogène, oxygène, d'autre part en pourfendant le vitalisme avec un grand sens de la polémique. Je voudrais aussi rendre hommage au chimiste allemand Hermann Kolbe, qui réalise en 1845 la première synthèse d'un composé organique impliquant une formation de liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène en partant de composés inorganiques. Avec du carbone élémentaire et de l'hydrogène, avec de l'eau comme source d'oxygène et avec l'assistance d'un peu de sulfure de fer et de chlore, il réussit à produire de l'acide acétique, un produit naturel connu à l'époque, comme un composant du vinaigre. Cette magnifique synthèse est une superbe illustration, parmi les toutes premières, de l'hypothèse fondamentale de la chimie dite prébiotique, à savoir que la vie a pu apparaître suite à l'accumulation de molécules organiques plus ou moins complexes, formées à partir de composés minéraux et de formes simples de carbone. Beaucoup plus tard, dans un article au journal Science en 1953, le chimiste américain Stanley Miller démontrera dans une expérience historique qu'en effet, dans certaines conditions de température, milieu réactionnel en ébullition, et d'irradiation déclenchée par des arcs électriques, mimant en quelque sorte les conditions extrêmes de la terre prébiotique, un mélange d'eau, de méthane, d'ammoniac et d'hydrogène conduit à la formation en petite quantité de toute une série de composés biologiques, entre guillemets, acides, acides aminés, sucres, etc. Même si les conditions utilisées sont objectivement critiquables, notamment car l'atmosphère était probablement à l'origine de la vie beaucoup plus oxydante, même si l'hypothèse de Miller d'une soupe prébiotique de laquelle naîtrait la première cellule vivante est probablement inadaptée, cette expérience a constitué pour le jeune étudiant que j'étais au milieu des années 70 un véritable choc et ne fut pas pour rien dans ma décision au moment de choisir un sujet de thèse d'investir le domaine de la chimie biologique. Curieusement, avec Pasteur, on assiste à un retour en force du vitalisme qui sera à l'origine de polémiques sérieuses avec Berthelot. L'origine de ce point de vue vitaliste de Pasteur est à la fois dans sa découverte de la dissymétrie moléculaire et dans la science de la fermentation, je n'évoquerai ici que la seconde. En étudiant les fermentations, Pasteur démontre que ces processus, connus depuis l'Antiquité et qui transforment des solutions organiques en solutions alcoolisées ou acides, comme dans la fabrication de la bière ou du cidre ou dans la transformation du vin en vinaigre, sont l'œuvre d'un micro-organisme vivant, le ferment. Pour Pasteur, la fermentation, comme la dissymétrie moléculaire, est donc œuvre de vie et renforce l'hypothèse d'une force d'origine inconnue qui introduit spécifiquement ses propriétés chimiques dans le vivant. L'opposition vitalisme-réductionnisme que traduit la polémique Berthelot-Pasteur se résout dans la première moitié du XXe siècle. Cela va passer par, de mon point de vue, deux grandes découvertes. D'une part, celle des enzymes, qui va permettre d'expliquer, entre autres, la dissymétrie moléculaire et la fermentation, et d'autre part, celle de la double hélice de l'ADN, plus tard, qui va permettre de comprendre les mécanismes de la réplication cellulaire et de l'hérédité. La révolution vient des travaux du chimiste allemand Eduard Büchner, prix Nobel de chimie en 1907. En broyant dans un mortier avec du sable un gâteau de levure séchée, Büchner constate que le jus de levure, débarrassé de toute cellule vivante, par filtration, peut encore provoquer la fermentation du glucose en alcool et dioxyde de carbone, disqualifiant la théorie vitaliste de la fermentation. Il conclut, cela démontre que le processus de fermentation n'exige pas l'appareillage compliqué que représente la cellule de levure. C'est donc clair, les êtres vivants possèdent des molécules tout à fait particulières, qu'on appelle depuis des enzymes, qui leur confèrent une formidable puissance de transformation chimique de la matière vivante. Ces enzymes, qui, rappelons-le, ne sont rien d'autre que des protéines, ont la faculté unique d'accélérer formidablement, par des facteurs qui peuvent atteindre la valeur de 10 puissance 19, toutes les réactions chimiques de la cellule et de les orienter avec une extrême précision et une étonnante sélectivité. Cette propriété, la catalyse enzymatique, constitue bien l'un des grands secrets de la vie. Avec le dogme « une réaction, une enzyme », un champ fantastique de recherche va alors s'ouvrir pour le chimiste qui devient biochimiste et qui ne s'intéresse plus seulement à l'identification des molécules du vivant, mais aussi à la façon dont elles sont transformées par des réactions catalytiques fascinantes au sein de la cellule. La seconde grande découverte est celle de la structure de l'ADN. Le 25 avril 1953, un article de la célèbre revue Nature décrit pour la première fois la structure de la molécule d'ADN, acide désoxyribonucléique. Les auteurs de cette lettre de deux pages sont le biologiste américain Jim Watson et le physicien britannique Francis Crick. Leur modèle, je l'ai déjà évoqué, explique merveilleusement comment l'ADN, contenu dans les cellules de tous les êtres vivants, peut être dupliqué à l'identique, permettant une cellule mère de se transformer en deux cellules filles comportant le même contenu en gène. Cette découverte constitue une formidable illustration de la puissance de la démarche réductionniste qui va dans ce cas précis de l'isolement de la molécule biologique d'intérêt par Michaers en 1868 jusqu'à sa caractérisation chimique et structurale, celle-ci donnant ensuite la clé pour comprendre son mécanisme d'action physiologique. L'ADN, avec deux molécules, les deux brins, qui communiquent de façon hautement spécifique par des interactions faibles, non covalentes, et qui s'informent mutuellement, est également un magnifique exemple biologique de cette chimie dite supramoléculaire, dont les concepts d'une très grande importance pour la compréhension du vivant en particulier seront plus tard formalisés par Jean-Marie Lenne, prix Nobel de chimie en 1987. L'occasion m'est donnée aujourd'hui, cher Jean-Marie, de te remercier pour ta contribution évidemment déterminante, comme celle de Jacques Livage. À ma nomination comme professeur au Collège de France, je redis ma très grande fierté d'être ici aujourd'hui, votre collègue. Je voudrais terminer cette histoire abrégée de la chimie biologique en la complétant très rapidement de son chapitre minéral écrit beaucoup plus tard. En effet, l'une des grandes révélations, de mon point de vue, de l'analyse du monde vivant de ces 40 dernières années est l'importance du rôle qui jouent les ions métalliques. Longtemps vue comme essentiellement organique et donc bio-organique, la chimie du vivant révèle une face métallique aux reflets multiples et devient par conséquent bio-inorganique également. C'est ce domaine que j'explore avec mon laboratoire de façon continue et avec passion depuis une trentaine d'années et je voudrais en quelques mots vous convaincre de l'importance de cette science. On peut faire remonter cette histoire avec, par exemple, le chimiste allemand Ernst Felix Emanuel Obseiler, à la fin du XIXe siècle, quand il démontre la présence de fer dans l'hémoglobine et son rôle dans le transport de l'oxygène de l'air. Le biochimiste français Gabriel Bertrand, qui occupa la chaire de chimie biologique à la Sorbonne en 1905, fut l'un des premiers à proposer que le métal pouvait jouer un rôle catalytique dans une enzyme en étudiant les réactions d'oxydation catalysées par une enzyme à cuivre, la lacase. C'est entre les années 20 et 40, d'abord avec David Kaelin, chimiste d'origine russe, puis au milieu des années 60, avec Helmut Beinert, un physicien allemand émigré aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale et récemment disparu, que l'on comprend que la chimie complexe de la respiration dépend de systèmes métallo-enzymatiques complexes comme la cytochrome oxydase qui contient du fer et du cuivre. C'est ce même Helmut Beinert qui, en 1960, découvre une nouvelle classe de centres métalliques des petits cailloux appelés clusters fer-soufre, constitués exclusivement d'atomes de fer et d'atomes de soufre, donc totalement inorganiques, qui sont doués de propriétés chimiques uniques et qui, accrochés aux protéines, jouent des rôles majeurs en biologie. Nous avons travaillé pendant de nombreuses années sur ces derniers composés dans mon laboratoire et continuons à le faire aujourd'hui très activement. Il n'y a pas de vie sans métaux. Les synthèses qui ont conduit aux premières molécules élaborées de la vie se sont vraisemblablement produites à la surface réactive de sulfure métallique, fer, nickel. Entre cette genèse il y a plusieurs milliards d'années et aujourd'hui, rien n'a changé. Presque toutes les grandes fonctions du vivant sont assurées par des métalloprotéines et des métalloenzymes, nécessitant donc la présence d'un ou plusieurs atomes de sodium, de calcium, de zinc, de fer, de cuivre, etc. Sans doute, la plus belle illustration de cette réalité profonde est dans ce cycle chimique, vertueux, écologique, modèle de système durable et solidaire, et en même temps, système d'une complexité structurale et fonctionnelle fascinante qui unit l'homme à la nature et au soleil. Sans magnésium, calcium et manganèse, qui constituent des éléments essentiels de la photosynthèse des végétaux et des algues, il n'y a pas l'oxygène et la matière qui nous alimentent en énergie. Et c'est grâce au fer et au cuivre de nos oxydases que nous savons, par la respiration, utiliser cette ressource pour notre propre compte, tout en redonnant à la nature le dioxyde de carbone qui lui est nécessaire. La raison de tout cela est simple. La vie dépend de la capacité des organismes vivants à utiliser efficacement le potentiel chimique de son environnement. Ce potentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est le soleil pour l'énergie et un nombre relativement limité de molécules, généralement petites, d'une très grande inertie chimique, des sortes de puits de potentiel chimique qui se sont accumulés à la surface de la Terre. Eau, oxygène, dioxyde de carbone, azote, etc. Pour les utiliser, il faut les activer. Et cela nécessite des modifications électroniques profondes que seuls les ions métalliques permettent. Les métalloenzymes qui réalisent ces activations, protéases, monooxygénases, hydrogénases, oxydases, etc., sont véritablement extraordinaires et leurs mécanismes d'action d'une très grande subtilité. Certains d'entre eux sont étudiés dans mon laboratoire depuis des années et ne cessent de nous défier et puis de nous émerveiller. Je voudrais consacrer la dernière partie de cette leçon à discuter brièvement de quelques développements prévisibles et souhaitables de la chimie biologique. Scientifiques, mais aussi citoyens du monde, il m'est impossible de proposer cette réflexion sans tenir compte du contexte général dans lequel cette discipline peut s'épanouir. Et je voudrais préciser au moins deux aspects majeurs de ce contexte. À l'aube du XXIe siècle, nous nous trouvons pour la science générale et la chimie en particulier au cœur de profondes contradictions. D'un côté, l'état très avancé des connaissances, leur traduction de plus en plus rapide en technologies innovantes et les besoins croissants en nouveaux objets, moins coûteux et plus performants, lient l'activité scientifique au développement économique et social de l'humanité comme jamais auparavant. De l'autre, l'image déformée et noircie d'une science et de ses applications qui peuvent contribuer à renforcer les inégalités à l'échelle de la planète et introduire de nouveaux dangers, alimente les angoisses du citoyen. Le désintérêt croissant des jeunes pour les métiers de la recherche, le bonheur des Nostradamus en tout genre, dont la notoriété est proportionnelle à l'ampleur de la catastrophe annoncée. Enfin, l'immobilisme des acteurs économiques et politiques, aidé par un principe de précaution qui laisse croire que le risque zéro existe. Les scientifiques eux-mêmes se doivent de démystifier la science et de l'interroger avec exigence. Mais si l'on ne veut pas être simplement submergé par tous les conservatismes, il est urgent que nous nous engagions encore avec plus de pédagogie et plus de passion dans nos laboratoires, nos entreprises, nos isoloirs, les journaux, les télévisions, les collèges, les lycées, pour dire et redire qu'il n'y a pas de futur sans science, pas de progrès sans recherche fondamentale. La chimie est au cœur de ce débat. Dans la mesure où elle introduit de façon continue et avec un certain degré d'irréversibilité dans notre environnement et dans l'ensemble des organismes vivants, hommes, plantes et bactéries, de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux qui peuvent non seulement conduire à des processus toxiques, mais aussi transformer le vivant lui-même durablement, comme le montrent, par exemple, les antibiotiques, qui, s'ils ont formidablement révolutionné la médecine du XXe siècle, ont dans le même temps conduit à transformer des souches bactériennes pathogènes en souches plus résistantes et plus virulentes. Autre exemple, le développement actuel des nanotechnologies se traduit déjà par l'arrivée dans nos maisons, nos voitures, nos bureaux et nos lieux de travail d'objets chimiques radicalement nouveaux, nanotubes de carbone, nanoparticules métalliques. Ces objets peuvent apporter des solutions très intéressantes à des défis technologiques et environnementaux comme la conversion de l'énergie solaire, la médecine, la catalyse industrielle, la purification de l'eau, mais on ne sait encore rien de leur toxicité potentielle. Le second aspect important du contexte général est la prise de conscience tardive, mais certes, mais réelle, que les sociétés seront confrontées au cours du siècle à venir, d'une part à une augmentation considérable de la population mondiale, qui atteindra 9 à 10 milliards d'habitants en 2050, et donc à une consommation d'énergie sans précédent, et d'autre part à la disparition progressive et irréversible des sources d'énergie traditionnelles, non renouvelables, pétrole, gaz, puis charbon. Pour répondre à la fois aux questions du citoyen sur la science et la technologie, et également aux évolutions démographiques et énergétiques, un nouvel âge de l'humanité est à inventer dès aujourd'hui. La construction d'une société durable dans laquelle les hommes satisferont leurs besoins, mais enfin sans compromettre l'avenir des générations futures, comme l'a défini Henri Léridon lors de sa leçon inaugurale il y a quelques semaines, constitue un formidable défi scientifique et technologique. Et les chercheurs vont être sollicités pour trouver des stratégies totalement innovantes, propres, économiques, efficaces et surtout durables pour la production de carburant, d'électricité, de produits chimiques et de matériaux. Il est évident que la chimie va jouer un rôle majeur dans le développement de cette nouvelle science. Une chimie qu'on nomme verte est donc à créer. Elle traduira dans des procédés de synthèse nouveaux son souci de la toxicité potentielle des solvants, des produits, des réactifs, de l'utilisation de produits de départ renouvelables, enfin de la limitation des déchets et de la dépense énergétique associée. La chimie du vivant a évidemment sa place dans ce projet. Un premier domaine à développer d'urgence est celui de la toxicologie et de l'écotoxicologie, pour lequel le besoin de spécialistes et d'une science solide est exprimé avec force par l'ensemble de la société. La compréhension à l'échelle moléculaire de l'impact d'un produit chimique sur un organisme vivant complexe constitue un passionnant défi pour le chimiste qui doit s'attacher à établir cette relation structure chimique-toxicité qui permettra non seulement d'éviter l'introduction dans notre environnement de substances toxiques, mais également de valider, dans les cas favorables, l'exploitation de composés nouveaux devenus de plus en plus difficiles. Un second domaine est celui de la catalyse, qui par sa capacité, je l'ai dit, à accélérer, orienter et optimiser les réactions chimiques pour les rendre peut les rendre plus propres et plus économiques en matière, en énergie et en déchets.
Le Collège de France et France Culture vous présentent le biochimiste Marc Fontecave sur la chimie des processus biologiques, une introduction, le 29 février 2009.
La découverte de nouvelles enzymes et la compréhension de leur fonctionnement nous apporteront donc des solutions originales et pratiques pour la transformation chimique de la matière. Par exemple, en permettant l'utilisation de micro-organismes entiers ou d'enzymes comme catalyseurs dans des procédés industriels et biotechnologiques, pour la valorisation du méthane et des hydrocarbures, pour la dégradation des parois cellulaires végétales et la transformation de la cellulose en biocarburant, pour la récupération et l'utilisation du dioxyde de carbone, ou encore pour la production d'intermédiaires clés à forte valeur ajoutée dans la synthèse d'un médicament. Les procédés biotechnologiques de synthèse représentait 5% du marché de l'industrie chimique en 2003. Il devrait concerner environ 30% de la production en 2020-2030 et devenir une technologie dominante dans le futur. Par exemple, la société BASF produit 1000 tonnes par an de vitamine B2, employée principalement dans l'alimentation animale, par un procédé biotechnologique utilisant un champignon filamenteux. Ce procédé de fabrication en une seule étape a remplacé le produit chimique en 8 étapes, dégageant une économie de 40% sur les coûts de production, une baisse de 30% des émissions de CO2 et une réduction de 95% des déchets. Une autre approche pour l'invention de nouveaux catalyseurs est celle de la chimie dite biomimétique ou bio-inspirée, que nous pratiquons dans mon laboratoire comme elle l'est dans bien d'autres dans le monde. Il s'agit pour le chimiste d'identifier une réaction biologique d'intérêt, de caractériser le plus complètement possible l'enzyme responsable de cette transformation et plus particulièrement son site actif, c'est-à-dire la petite partie de la protéine où se produit la réaction, et finalement de synthétiser une petite molécule originale, ce qu'on appelle un modèle chimique, qui reproduit aussi fidèlement que possible la structure et la réactivité de ce site actif. Très loin de recréer la vie, sans se prendre pour Dieu, sans vouloir en quelques semaines réussir ce que le monde vivant a mis des milliards d'années à mettre au point, les chimistes ne cessent d'être modestement émerveillés par la possibilité de synthétiser chimiquement un morceau de biocatalyseur naturel. Pour illustrer cette démarche, je voudrais dire quelques mots d'une recherche récemment démarrée dans mon laboratoire visant à trouver de nouveaux catalyseurs pour la production et l'utilisation de l'hydrogène, l'un des vecteurs énergétiques de demain. Il s'agit pour moi d'une aventure passionnante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'elle s'inscrit dans la problématique de l'énergie qui est la grande question de l'humanité du XXIe siècle. Parce que l'ère du carbone s'achève, lentement et sûrement. Parce qu'il est à notre portée aujourd'hui de transformer l'eau et le soleil, source inépuisable d'énergie, en carburant. Je fais le rêve, avec l'économiste Jeremy Rifkin, dans son ouvrage « The Hydrogen Economy », d'un monde où chaque être humain peut être à la fois le producteur et le consommateur de son énergie de façon décentralisée et autonome. Aventure passionnante aussi parce qu'elle soulève des questions fondamentales de chimie et parce qu'une grande partie des solutions viendront de l'inventivité des chimistes. L'hydrogène est un combustible particulièrement intéressant en raison de la grande quantité d'énergie que sa combustion dégage, presque trois fois celle du pétrole par unité de masse, et parce que cette combustion ne produit pas de CO2, comme le fait celle du pétrole, mais exclusivement de l'eau. Évidemment, ce combustible présente un certain nombre d'inconvénients. Sinon, il y a bien longtemps que nos voitures fonctionneraient à l'hydrogène. Le premier inconvénient est que sa combustion, dans ce qu'on appelle les piles à combustible ou les piles à hydrogène, nécessite des catalyseurs à base de platine, un métal trop cher et en quantité infime à la surface de la Terre. Un autre problème est que l'hydrogène n'existe pas sur la Terre sous cette forme utile H2 et doit donc être produit, par exemple, à partir d'hydrocarbures ou mieux encore de l'eau, par des processus qui coûtent cher en énergie ou qui nécessitent également des catalyseurs à base de métaux précieux. Le vivant, encore lui, peut nous fournir la solution. Solution chimique particulièrement séduisante et fascinante, puisque des organismes comme des cyanobactéries ou des microalgues ont trouvé comment utiliser, non pas du platine, mais du manganèse, du nickel et du fer, pour produire de l'hydrogène uniquement à partir de l'eau et du soleil. Ce soleil qui fournit à la Terre en une seule journée l'énergie consommée annuellement par la population mondiale et qui va continuer à le faire encore quelques milliards d'années. Comprendre les aspects de cette chimie d'une extrême complexité et s'en inspirer pour inventer les catalyseurs originaux et peu coûteux de demain qui remplaceront le platine constitue déjà un peu partout dans le monde des axes majeurs de recherche. Avec Vincent aux manettes, nous avons pu par exemple montrer très récemment au laboratoire qu'il était possible de mimer à l'échelle atomique le site actif des hydrogénases, ces métalloenzymes qui catalysent la transformation de l'eau en hydrogène. Leur site actif que vous voyez ici ne contient pas de platine, mais du nickel et du fer. Les modèles chimiques à base de ces métaux non précieux que nous pouvons inventer par une approche bio-inspirée constituent des catalyseurs efficaces pour la production d'hydrogène. L'apport des nanotechnologies peut s'avérer précieux, comme le montrent nos derniers travaux menés en collaboration avec l'équipe de Serge Palassin à Saclay et brevetés depuis quelques semaines, des complexes de nickel greffés sur des nanotubes de carbone, fournissent des matériaux d'électrode peu coûteux et présentant des propriétés catalytiques remarquables qui commencent à se rapprocher de celles du platine. Je ne peux m'empêcher de conclure ce chapitre avec Jules Verne dans L'île mystérieuse, visionnaire et profondément optimiste, comme nous devons tous l'être. À Pencroff qui demande « Et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ?» Cyrus Smith répond « L'eau !» Oui, mes amis, je crois que l'eau un jour sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Ainsi donc, rien à craindre. Je n'ai pas encore parlé de ce qui va, sans aucun doute, rester l'une des missions de la chimie biologique, à savoir le travail d'identification des molécules du vivant et de leur rôle physiologique commencé, je l'ai dit, il y a plus de 200 ans. Les moyens pour le faire aujourd'hui, notamment grâce aux centaines de génomes accessibles, sont sans précédent. Le premier univers chimique largement inexploré est celui des petites molécules biologiques. Le vivant, on l'oublie souvent, n'est pas que protéines, acides nucléiques, lipides. Il dépend aussi de petites molécules d'une très grande complexité architecturale que ne possèdent pas en général les molécules de synthèse préparées par les chimistes et qui sont des acteurs importants de la vie cellulaire, vitamines, neurotransmetteurs, cofacteurs d'enzymes, médiateurs divers, etc. Les organismes vivants, en particulier plantes et bactéries, constituent des mines moléculaires immenses et leur exploitation devrait ouvrir de nouveaux horizons, en particulier en matière de médicaments et de thérapie. Entre 1983 et 2005, le tiers du millier environ de nouvelles molécules approuvées par la FDA, la Food and Drug Administration, étaient constituées de produits naturels ou des composés dérivés ou inspirés de produits naturels. Ce chiffre passe à près de 60% quand on considère exclusivement les médicaments anticancéreux. L'autre répertoire de molécules biologiques à établir est celui des protéines. Appelons-le le protéome, en particulier en raison de leur importance comme cible potentielle de nouveaux médicaments. On peut aujourd'hui théoriquement obtenir le produit protéique de n'importe quel gène sous une forme abondante et pure et en déterminer les propriétés structurales et fonctionnelles. Théoriquement seulement. Car en réalité, en contradiction avec un gène, une protéine, un seul gène, on le sait aujourd'hui, peut coder pour plusieurs protéines différentes. À travers des processus variés et contrôlés de traduction des gènes et de modifications post-traductionnelles, de sorte que le nombre de protéines à caractériser excède largement le nombre de gènes. Par ailleurs, pour des raisons évidentes, ce sont les protéines les plus stables et les plus abondantes qui ont pu être utilisées et caractérisées jusqu'à présent, et le travail qui reste à faire maintenant concerne une grande partie de protéines faiblement exprimées, instables, insolubles, difficiles à cloner ou exprimées de façon recombinante, réfractaires à la cristallisation. Enfin, la plupart des protéines ne fonctionnent pas de façon isolée dans la cellule, mais plutôt comme des éléments de complexes multiprotéiques au sein desquels les interactions protéines-protéines et les modifications post-traductionnelles optimisent et modulent l'activité de chacun des composants moléculaires. L'analyse de la structure et de la fonction de ces systèmes complexes et leur réplication in vitro dans un tube à essai constitue donc pour le chimiste un nouveau défi difficile mais enthousiasmant. Les applications évidentes de cette chimie des protéines concernent en tout premier lieu la santé. La biologie et ses applications en médecine ont constitué la grande aventure scientifique du XXe siècle. Le résultat est extraordinaire, comme le montre l'accroissement fantastique et continue de l'espérance de vie, en particulier dans les pays développés. La chimie a joué, dans ce progrès, un rôle majeur. Il ne fait aucun doute que la recherche de nouveaux médicaments restera une activité centrale de la chimie du vivant, dans le domaine de l'infectiologie, des grandes maladies neurodégénératives et cardiovasculaires, et du cancer. Un médicament, c'est une petite molécule, le plus souvent, naturelle ou synthétique, capable de se fixer de façon sélective sur une macromolécule biologique, protéine, acide nucléique, et de moduler son activité. La fixation d'une petite molécule à une protéine, donc la fixation est l'un des processus moléculaires les plus fondamentaux de la biologie. La découverte rationnelle de tels ligands de protéines par le chimiste continue à être un problème fascinant, mais néanmoins extrêmement difficile, car nous n'avons toujours pas de recette infaillible pour trouver la molécule qui se fixe spécifiquement sur la protéine, une protéine dont on connaît la séquence et la structure. Cette connaissance reste l'une des grandes missions de la chimie biologique. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais dire ma conviction que, malgré les annonces régulières de l'arrivée imminente des thérapies géniques et cellulaires qui constituent des perspectives passionnantes, le médicament sera encore longtemps et très majoritairement moléculaire, molécules de synthèse ou naturelles, petites molécules ou macromolécules biologiques, et les progrès de la médecine et de la santé devront encore beaucoup à la chimie. Enfin, il ne fait aucun doute que le plus grand rêve du chimiste est la production artificielle de matières vivantes capables de se reproduire. En dépit des questions d'éthique importantes que ces recherches soulèvent, les chimistes doivent continuer dans la voie ouverte en 1953 par Stanley Miller pour une compréhension plus claire du scénario moléculaire de l'apparition de la vie sur Terre. Me voici donc arrivé au terme de cette première leçon. Il me faut conclure. L'important, je l'ai dit, c'est le voyage. Le mien, ce fut la chance d'avoir, au début de ma vie professionnelle, rencontré deux scientifiques exceptionnels qui m'ont enrichi et aidé, de près puis de loin. L'un, le chimiste français Daniel Mansuy, membre de l'Académie des sciences, l'un des pionniers de cette chimie bio-inorganique que j'ai discuté longuement. Il fut mon directeur de thèse et il sut, à l'époque, éteindre en moi les sirènes assourdissantes du rugby, de la musique et de la politique, suffisamment en tout cas pour me permettre de mieux entendre celle de la science. Cher Daniel, je sais qu'il est là, mais permets-moi en public de te remercier pour ton enseignement, ton accompagnement ensuite et ton amitié. L'autre, le biologiste suédois Peter Richard, professeur à l'Institut Karolinska à Stockholm, aujourd'hui à la retraite, formidablement ouvert au langage et à la démarche de la chimie, et avec qui j'ai partagé les émotions inoubliables associées à l'observation d'une activité ribonucléotide réductase non dépendante de l'oxygène au cours de l'été 1988. Chance aussi d'avoir fait le voyage avec des collaborateurs enthousiastes, généreux, intelligents. J'en ai cité quelques-uns, je ne peux pas les citer tous. Mais je souhaiterais rajouter à la liste Stéphane Ménage qui reprend le flambeau en me succédant à la direction du laboratoire de chimie et de biologie des métaux, fruit de mes 20 ans de recherche et de politique scientifique à Grenoble, Ami Data, avec qui je continue de partager ma passion des protéines fer-soufre et du Maroc, et Vincent Nivière pour les années de flavine réductase et de superoxyde réductase que nous avons passées ensemble. Chance enfin d'avoir été recruté très jeune comme professeur dans l'une des meilleures universités de France, j'allais dire la meilleure mais ce serait incongru, l'université Joseph Fourier, d'y avoir été soutenu dès le premier jour par le CNRS et enfin d'avoir vogué depuis une dizaine d'années au sein du CEA, un organisme de recherche remarquable et méconnu.
C'était la leçon inaugurale de Marc Fontecave intitulée « Chimie des processus biologiques, une introduction » le 29 février 2009 au Collège de France. Le texte de cette leçon a paru chez Fayard en 2009. La version électronique de cette leçon et la vidéo sont en ligne sur le site du Collège de France et sur nos pages de France Culture, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Cette émission sera également rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Un grand merci à notre équipe de réalisation avec Olivier Guérin et Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, François Bourguignon, pauvreté et développement dans un monde globalisé. Belle journée à l'écoute de France Culture.